Radio PFM et l'association TransArt vous proposent une série d'émissions réalisées dans le cadre d'un atelier radiophonique au centre pénitentiaire de Maubeuge.
Et là, ici, c'est notre petit point tranquille. C'est que les gens peuvent se relâcher puis raconter des petites histoires.
Les détenus ont produit des émissions sur des thèmes sociaux et culturels, la vie en prison, mais aussi lors de visites encadrées dans des lieux culturels de la région. Ce projet a eu lieu de 2010 à 2014 sous la responsabilité de Francine Augéré, ancienne directrice de Canal FM, radio associative maubeugeoise.
Si vous attendez dans votre cellule, vous regardez la télévision du matin au soir, vous se levez à midi pour l'ouvre-port, il n'y a rien qui avance.
Cette série d'émissions est à écouter sur PFM 99.9 du 13 janvier au 6 mars, le mercredi à 10h du matin, le jeudi à 14h et le samedi matin à 9h. Cette semaine, la belle italienne.
Très connu.
Bon, c'est régalé.
J'ai adoré, surtout que elle était sublime,
cette glace italienne.
T'es tombé pour une glace.
Non, j'ai là.
La belle italienne.
Ou notre visite au Louvre du 4 juin 2013.
Une émission de l'atelier radiophonique du centre pénitentiaire de Maubeuge.
Cette année, dans le cadre de notre approche de la mythologie grecque, 7 d'entre nous ont pu se rendre à Paris au musée du Louvre.
Alors, deux questions pour commencer. Comment a commencé votre journée et comment elle s'est déroulée?
On a visité Paris. On a visité la Tour Eiffel, on a visité plusieurs endroits, des parcs.
Le jardin des Tuileries?
Oui. C'est le jardin des Tuileries. Paris de la Bois a été accueilli par trois demoiselles, je crois. Ça, trois demoiselles. Ils nous ont fait visiter, ils nous ont expliqué. Ils ont répondu aux questions.
Le soleil déjà.
Le soleil qui nous manque tant.
Les statues.
Les enfants dans le parc des Tuileries.
Les tours Eiffel.
Oui, ça c'était un peu avant, oui. Ouais, bon, on dit bien que c'est la plus belle ville du monde, mais moi... Enfin non, il a l'avenue la plus belle du monde, mais moi je dis que c'est la ville la plus belle du monde. Des beaux monuments, magnifiques.
Vous avez descendu l'avenue complète des Champs-Élysées en façon...
On l'a remonté en partant. Mais on a passé, bien sûr, devant l'Arc de Triomphe. De loin, on a vu l'Arc de la Défense, Avec de l'Arc de Triomphe qui est dans... et la pyramide. On a passé au pied de la Tour Eiffel. Bon, ben, ça nous manque, hein, nous. Parce que des personnes ici sont des enfants.
C'est ce que j'ai dit à Madame Rousselet. Madame Rousselet, est-ce qu'il y a des garderies? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Ben, elle dit non. Je vous dis, aujourd'hui, on est mardi. C'est les écoles.
C'est les sorties d'école.
C'est les sorties d'école avec les groupes.
Et ça nous manque beaucoup, nous. Hein. Le cri des enfants. C'est ce qui l'interpelle le plus, c'est ça. Hein. Pour moi, je trouve, moi, dans un parc. C'est ça. Un parc sans enfants, on est manqué de choses.
Est-ce que justement, en visitant des monuments ou la capitale, on ne redevient pas enfant en étant adulte?
Ben si, parce qu'on est ébahi, parce que surtout dans l'endroit où on vient. Si, on en revient enfant, oui.
Ouais, c'est vrai, parce que moi, j'avais jamais vu du sol, alors c'est la première fois que je vois. Pourtant, j'avais l'occasion d'y aller, quoi. Mais jamais... Mais là, j'étais bien content. J'étais heureux.
On était des enfants dans des corps d'hommes.
Oh, moi, j'avais déjà été, mais pas dans les parcs comme ça, pas au musée. Mais dans les parcs tout seul, j'avais déjà vu des parcs. C'était l'impression nouvelle.
Ça, c'est sûr. On se l'a dit. Hein.
Voilà, ouais. C'est bon.
On se l'a dit qu'il faudra le refaire, nous, avec notre famille et les enfants. On se l'a dit. Hein.
Comme ça, on pourrait expliquer, ben voilà, nous, quand j'étais en prison, j'ai participé à ça, j'étais là, je pourrais leur expliquer un petit peu. Ben.
C'est un privilège.
Pour moi, j'étais plus détenu, pour moi.
C'est une entière liberté, c'est.
On s'est senti libre. Hein.
Comme on y était hier, c'est vrai, on pensait plus du tout à la prison. On faisait que regarder. On a parlé des marchands de glace, des sandwichs. Et ils nous ont fait, c'était plaisant. Moi, ça m'a plu, c'est qu'ils nous ont fait entièrement confiance.
Ouais.
Il y avait les oiseaux, les fleurs, les arbres fleuris. Non, c'était là, présent. Hein. Parti à 8h30 de Maubeuge, nous franchissons les portes du Louvre vers 14h, accueillis par la gentillesse des trois ambassadrices.
C'est Mariam qui sera notre guide pendant les 2 heures que durera la visite du département des antiquités grecques et romaines.
J'ai envie de vous dire, c'est que je n'aurais pas aimé rencontrer ces dieux, ces déesses. On va voir des personnages extraordinaires, des personnages d'une beauté très idéalisée, très inspirée par la nature humaine. Mais ces dieux ne sont pas véritablement sympathiques. Hein. Ils ont des propriétés très particulières. C'est une religion évidemment polythéiste, c'est-à-dire qu'on a des dieux qui répondent en fait à toutes les questions existentielles que se posent les Grecs. Ils répondent à des manquements de la connaissance. Pourquoi le soleil, pourquoi le jour, pourquoi la nuit, pourquoi les orages, les intempéries, pourquoi la mort, la vie, l'amour, les sentiments, des choses comme ça. À ces questions qui sont des questions existentielles, qui parfois ont une explication scientifique, parfois une explication qui serait plus du domaine de l'âme et du sentiment, eh bien, les Grecs ont inventé une sorte de généalogie. Alors, je vous présente ici une déesse. Les Grecs l'appellent Artémis. Alors, est-ce que quelqu'un connaît cette déesse Artémis? C'est la déesse de quoi? Déesse de la chasse. Déesse de la chasse, c'est une déesse jeune. Vous allez voir, il y a des dieux d'un âge mature et il y a des dieux plutôt qui gardent une jeunesse éternelle. Alors, vous allez voir aussi que les Grecs inventent des choses qui parfois sont très cohérentes. Ces dieux ont une naissance, ils ont une enfance, ils grandissent, mais après ils restent éternels. Donc ils vont rester éternellement jeunes ou éternellement vieux et barbus, ça dépend. Hein, tout n'est pas cohérent du tout. Et dans le cas de cette déesse, elle a un frère jumeau. Elle est la sœur jumelle d'Apollon. Et j'aime bien la façon dont les choses se passent, parce que vous savez que dans les jumeaux, il y en a toujours un qui apparaît le premier. Et là, dans son cas, c'est Artémis. Souvent, les filles sont quand même plus rapides, plus, surtout les petites filles. Hein. Et donc, elle va aider son frère à venir au monde après. Et ces deux, Apollon et Artémis, se partagent un certain nombre de choses. Artémis est la déesse de la chasse, déesse des jeunes femmes prépubères, des jeunes adolescentes, tout comme Apollon est plutôt le dieu des adolescents, hein, des jeunes gens. Elle peut être redoutable, par exemple, c'est elle qui peut envoyer les difficultés aux femmes lors des couches, hein, lors des accouchements. Elle peut être comme tous ces dieux, extrêmement sympathiques et parfois extrêmement cruels. Et cette déesse qui est représentée ici avec son animal mythique, c'est une biche. Alors, pas tout à fait une biche, c'est en fait un cerf féminin. Il a des bois, mais c'est un animal féminin, un petit peu ambigu. Et elle porte un vêtement particulier. Normalement, les déesses sont représentées comme les femmes, avec des vêtements relativement longs, des tuniques longues. Mais elle est sportive, elle court dans les bois, hein, la chasse c'est sa grande passion. Et elle est donc représentée ici en ayant remonté sa draperie, son chiton, hein, noué avec une sorte de ceinture pour pouvoir courir dans les bois. Il lui manque son arc. Certains éléments ont été restaurés dans cette sculpture. Elle a un carquois et on pense qu'en fait, elle est associée avec son frère Apollon, probablement inspiré d'une sculpture qui serait l'Apollon du Belvédère, un Apollon qui tient d'ailleurs une draperie à la main et un arc dans l'autre. Et le frère et la sœur sont en train de se venger. Venger d'une femme qui a cruellement vexé leur maman, Latone. Alors, je vais vous raconter l'histoire. C'est en ça que vous allez voir que les dieux grecs, ils sont quand même très spéciaux. En fait, les Grecs leur ont donné des propriétés humaines. Ils ressemblent physiquement aux hommes et aux femmes, en étant beaucoup plus beaux que nous, hein, beaucoup plus parfaits. Mais ils nous ressemblent aussi par leur tempérament. Ils peuvent être jaloux, ils peuvent être satisfaits, insatisfaits, violents, de mauvaise humeur, de méchante humeur. Bon, ils ont des attitudes humaines. Et il se trouve que Latone a été très vexée parce que une certaine Niobé se serait vantée d'avoir eu, je ne sais plus, 12 ou 14 enfants. Et elle dit, oh, j'ai eu 14 enfants, j'en ai eu bien plus que la déesse Latone. Ça, Latone, elle l'a pris très très mal. C'est ce que les Grecs appellent l'hybris. C'est quand les êtres humains osent aller au-delà de ce qui est permis. C'est-à-dire s'imposer face à un dieu, se mesurer, se comparer à un dieu. Vous imaginez un petit peu. Alors la punition va être terrible, parce que pour venger leur mère Niobé, les deux jumeaux vont cribler de flèches toute sa progéniture, elle va perdre tous ses enfants, la pauvre Niobé. Et certainement, l'attitude, vous la voyez comme ça, très altière, très belle, impressionnante, eh bien, vous n'imaginez pas la cruauté de cette déesse qui s'apprête en réalité à décocher une flèche à un de ses malheureux enfants, absolument innocents. Spécial quand même, hein, les histoires des dieux et des déesses de l'Antiquité grecque.
À mi-parcours de notre visite, nous rencontrons l'une des superstars du Louvre.
C'est la Vénus de Milo. Vous voyez, quand on dit la Vénus, c'est comme la Joconde. Hein, on se l'approprie, ça devient. C'est vraiment la deuxième superstar du Louvre, après moi. après la Joconde, évidemment. Quand on fait la visite des chefs-d'œuvre pour le grand public, on nous exige les trois dames. Hein, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace. Et la Joconde, dit aussi Mona Lisa. Donc, cette Vénus de Milo, c'est la sculpture peut-être la plus célèbre du département. Elle a été découverte sur une île, l'île de Milo ou de Mélos. Parce que les gens, parfois, s'imaginent que Milo, c'est l'artiste. Donc, on ne sait pas qui est l'auteur de cette sculpture. Elle a été découverte par un paysan grec au XIXe siècle. Il l'a extraite de son champ, hein, de son terrain. Elle était composée de deux morceaux, deux blocs de marbre. Il y a un bloc pour les jambes et puis un bloc pour le buste. Et puis, un peu comme les poupées Barbie, il y avait un système de tenons et mortaises en métal. C'est ce qu'on appelle des sculptures acrolithes, c'est-à-dire faites en morceaux. C'est déjà quelque chose de très moderne. Il a fallu passer vraiment du bloc de marbre qu'on va progressivement, dans lequel on va détacher au fur et à mesure des morceaux. Quand je vous parle de sculptures qui ont déjà 2000 ans, 2500 ans, vous voyez, les outils sont rudimentaires, mais déjà très vite, on utilise des systèmes de trépans. Vous savez, le trépan, c'est une sorte de manivelle, un peu comme une perceuse, hein, qui va créer des petits trous les uns à côté des autres pour pouvoir enlever des morceaux de matière. J'ai toujours envie que les gens s'interrogent et se disent comment je détache, hein, ces morceaux de marbre. Le marbre, c'est une pierre très difficile à travailler. C'est une pierre très très dure qui d'ailleurs, quand elle est brute, elle est grise, elle est pas particulièrement belle. C'est vraiment au contact du travail, au travail de l'homme, qu'elle va prendre cette forme et qu'elle peut arriver à donner cette impression très lisse, très délicate. Souvenez-vous du petit Apollon qu'on a vu tout à l'heure, qui semblait tellement lisse, tellement doux. Mais c'est un matériau brutal, difficile à travailler, particulièrement difficile. Alors, cette Vénus de Milo, elle est à moitié dénudée. Et l'artiste lui donne ici un drôle de mouvement. Elle a le genou avant gauche, l'épaule droite, elle tourne sur elle-même, elle a une position vraiment très moderne qui permet pour nous de la dater assez tardivement du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc elle a à peu près 2000 ans. C'est ce mouvement, hein, la façon dont elle tourne comme ça sur elle-même. Alors on ne s'explique pas bien parce qu'il n'y a pas les bras, donc c'est pas ce qu'elle fait avec les bras. Elle tient la pomme, elle en est fière peut-être, elle l'arbore, je ne sais pas. Elle a été trouvée en bon état de conservation, cassée en deux morceaux, comme je vous l'ai dit. Néanmoins, on n'a pas retrouvé ses bras, ni ses pieds, mais on a retrouvé une main qui semble du même matériau. Dans la petite vitrine qui se trouve là, on va s'approcher de la main. C'est la main de la Vénus, visiblement, qui tient un fruit.
Une pomme.
Une pomme, exactement. Alors là, on peut être convaincu qu'il s'agit de la déesse Aphrodite. Elle a remporté le prix de beauté. Vous savez que Eris avait semé la discorde et Paris, qui est un homme, un simple berger, chargé de choisir entre les trois déesses laquelle des trois sera la plus belle de l'Olympe. Souvenez-vous, je vous ai dit, les dieux, ils sont comme nous. Donc ils vont chercher à l'acheter. La première Héra va lui dire, voilà, moi je suis l'épouse de Zeus, si c'est moi la plus belle des déesses de l'Olympe, je te donne le pouvoir. Ça c'est très excitant pour un homme quand même, c'est un simple berger, imaginez. La deuxième, Athéna, déesse de la guerre, lui dit, écoute, si c'est moi la déesse de la beauté, si je suis la plus belle déesse de l'Olympe, je te donne les victoires, tu seras un winner. Ça c'est très très attractif aussi, pouvoir, victoire. Et le troisième, la troisième, c'est Aphrodite. Elle lui dit, moi je t'offre l'amour. Si je suis la plus belle déesse de l'Olympe, je te présente, je te désigne la plus belle femme sur Terre. Je ne sais pas ce que vous auriez choisi. Moi j'ai ma petite idée, mais bon, je ne sais pas ce que vous auriez choisi. Vous auriez choisi quoi d'ailleurs ?
La victoire.
Ah, victoire. Pas mal.
L'amour.
L'amour, hein, on a un romantique. En tous les cas, il va choisir l'amour. Il choisit l'amour et vous savez qui est la plus belle femme sur Terre ? À l'époque, c'est Hélène, la belle Hélène. Vous avez entendu parler de la belle Hélène ? Alors, il y a comme un petit souci. Voilà, le souci, c'est que notre Hélène est déjà mariée. Et donc, quand elle va découvrir ce ravissant Paris, un berger... beau comme un dieu, elle va être séduite par ce joli garçon, elle va partir avec Paris, Ménélas va être très déçu de perdre son épouse, et ça va provoquer la guerre de Troie. Et dans cette guerre de Troie, qui est en fait une épopée extraordinaire, vont être racontés des événements, probablement pour certains historiques, mélangés à des histoires extraordinaires, parce que les dieux s'en mêlent.
Maintenant, à notre tour de poser des questions complémentaires que l'atelier radio avait pour mission de transmettre à Myriam, notre guide. Pourquoi les hommes sont beaucoup plus représentés que les femmes ?
Alors, ils sont représentés avec une attention différente. En fait, les femmes grecques vivent dans le gynécée. Je parle des femmes de condition, des femmes de l'aristocratie de l'époque. Elles vivent dans le gynécée fermé au monde, hein, tandis que les hommes vivent de façon beaucoup plus ouverte. Donc on va représenter chez les hommes les dieux, les héros, mais aussi la représentation des hommes politiques, parce que les femmes ne comptent pas du tout, hein. Les femmes ne sont pas comptabilisées dans les citoyens de la cité grecque.
Comment conserve-t-on des œuvres si anciennes ?
À Alors, d'abord, je pense que beaucoup d'œuvres, finalement, archéologiques, tant qu'elles ne sont pas extraites, elles sont protégées, hein, plus ou moins bien. Évidemment, quand c'est des régions humides, c'est un peu plus compliqué, mais bon, elles ont été conservées pour certaines, tout simplement parce qu'elles étaient oubliées. Je vous ai présenté des sculptures qui ont été extraites de terre et conservées en bon état. Après, c'est autre chose. Une fois que ça entre dans les musées, il y a des politiques de conservation qui sont très, très sérieuses. Le directeur du musée du Louvre est avant tout un conservateur. Hein, les chefs des musées sont des conservateurs. Et le mot veut bien dire ce qu'il dit, c'est qu'ils sont chargés de conserver notre patrimoine. Et donc d'en prendre soin, de s'arranger pour que les gens ne touchent pas, qu'il y ait des mises à distance, que la lumière n'abîme pas. Alors les sculptures, ça va, c'est parce qu'il y a plus fragile, ça supporte la lumière, ce qui n'est pas le cas des peintures. Là, une question que vous auriez pu me poser, c'est qu'on voit beaucoup de sculptures. On sait qu'il y avait de grands peintres à l'époque. Je ne vous présente pas de peinture, parce que ça, pour le coup, c'est très difficile à conserver.
Pourquoi est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de ces mythes ?
Ah, mais ça, j'ai envie de vous demander à vous, parce que je pense que dans ce que j'ai raconté, il y a des choses qui fascinent. Fascinent parce qu'ils abordent des questions humaines, je crois, avec tout ce que l'homme porte en lui, de qualités, de défauts, d'impulsions, de désirs, d'envie, de refus. Et on se rend compte que ce sont des questions existentielles de l'humanité depuis toujours. Il vous parle des hommes, parce qu'en fait, ces dieux vous parlent des questions d'hommes, enfin, d'humains.
Et pour quelle raison il y avait tant de statues ? Ça leur représentait quoi pour eux ?
Alors, ça dépend. J'ai essayé de vous le dire un peu tout à l'heure. Certaines sont des statues de culte, mais les statues de culte, finalement, elles sont rares à nous être parvenues. J'ai expliqué, elles sont parfois en bois ou elles vont être transportées, elles ont subi. Et puis, les changements de religion sont souvent dramatiques pour les œuvres, hein, parce que quand une religion s'impose par rapport à une autre, elle va chercher à anéantir toute trace du passé. C'est des choses que toutes les grandes religions ont révélées, ont provoquées. Les chrétiens, les musulmans, à chaque fois qu'une religion s'impose, elle va casser, abîmer. Ça, c'est quelque chose de très dangereux et contre lequel on essaie de lutter. On voit bien dans le monde, hein, il arrive aujourd'hui encore en état de guerre, qu'on casse volontairement des œuvres du passé qui racontent l'histoire des hommes passés. Il faut regarder ça comme le passé, mais le respecter, c'est quelque chose de très important parce que je crois que ça permet de comprendre qui nous sommes. Vous voyez bien que dans ces mythes, il y a des choses qui sont violentes, qui sont fortes et qui nous parle, hein, qui nous interpelle. On se dit, on pense toujours que les gens du passé sont des gens sages. Hein, évidemment, non, pas du tout, pas plus. Ce sont des hommes comme nous. Donc ces sculptures, pour certaines, sont des sculptures de culte. Pour beaucoup, sont des sculptures qui sont offertes en remerciement, offertes en mémoire aussi. Et puis certaines vont devenir des objets presque décoratifs. Quand je parle des Romains qui ont leur culte, qui ont leur statut de culte, mais qui vont commander des Vénus pour mettre dans les thermes, elle va prendre à ce moment-là un caractère qui devient décoratif. Et puis, autre chose, elles sont toutes blanches, toutes belles. On aime le marbre blanc comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'elles apparaissaient aux Grecs. Les Grecs les peignaient. Alors, est-ce qu'ils peignaient intégralement ? Est-ce que c'était juste des détails ? Les joues, la couleur des cheveux, des yeux, certains détails dans les draperies, dans les vêtements. Voilà, elles n'étaient pas toutes blanches. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais la très grande Athéna qu'on voit là-bas, la grande sculpture monumentale tout au bout, quand on s'en approche, on regarde les yeux, les cheveux, il y a des traces un peu de rouge. Non pas qu'elle ait eu les yeux rouges à l'époque, mais c'est la première couche pour servir d'accroche à la peinture. Et donc, certaines sculptures gardent des petites traces de polychromie, généralement dans les trous, dans les effets de sculpture. Et on a du mal, nous, à l'imaginer aujourd'hui, parce qu'on s'est fait une image, justement, d'un art qui serait classique, un art qui n'aurait pas recours à la polychromie. Mais dans la tradition occidentale, jusqu'à la Renaissance, les sculptures étaient peintes. Hein, Notre-Dame de Paris était peinte.
La plupart des cathédrales, des églises portaient des sculptures peintes.
Est-ce que c'est avec le temps ou...
Oui, absolument. C'est le temps qui fait perdre la polychromie. Certaines ont été nettoyées, restaurées, donc elles ont perdu. Beaucoup de sculptures ont été trouvées sous terre. Donc ensuite, si ça a été découvert il y a très 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 longtemps, on ne faisait pas attention de la même façon lors du nettoyage et lors de la préparation. Et donc on perdait la polychromie.
Pourquoi les dieux grecs étaient-ils pleins de défauts ? Colère, jalousie, amour nombreuse et vengeance, meurtre et inceste.
Moi, je crois que j'ai répondu un peu, non ? Quelqu'un veut répondre à ma place ?
Pleins de défauts, comme nous.
Ils sont faits à l'image des hommes. Ils sont inventés par les hommes, à l'image des hommes. Voilà, et ils répondent à des questions. Alors, il y a des tas de questions que nous, on connaît maintenant. On sait pourquoi il y a de l'orage. On sait pourquoi il y a des tremblements de terre. On sait plein de choses aujourd'hui grâce au progrès de la science. Donc, on ne regarde plus les choses de la même façon. Mais ça a une logique, une évidence qu'on ait pu penser à des choses pareilles à une époque où tout ça, on ne le savait pas.
Je vais vous poser une question. La matière première, le marbre, il le trouvait sur place ?
Oui,
ou...
il y a beaucoup de pierres en Grèce. Et notamment, tout à l'heure, on a parlé de la Vénus de Milo. Tout près de Milo, il y a une île qui s'appelle Paros et qui possède dans son sol beaucoup, beaucoup de marbre et du très beau marbre.
Je voulais poser une autre question. Oui. Au niveau statues, on a parlé tout à l'heure des statues en bronze, mais en bois,
Il y en a eu, mais c'est plus difficile à conserver, par exemple. Mmh. Et puis, il y en avait qui étaient en armature de bois et recouvertes de matériaux précieux. Ah, quand on peut mettre du marbre ou du bronze, c'est plus appréciable que du bois, forcément. Mmh. Mais il y a eu des statues de bois.
Et où est la plus grande collection de statues ? C'est ici au Louvre ou...
Non, on a une très belle collection, mais forcément... Alors, oui, là je parle de l'Antiquité grecque, c'est un peu spécial. J'ai envie de parler de gréco-romain. La collection du Vatican est exceptionnelle en Italie, parce qu'évidemment, territoire romain. Vous avez de belles collections aussi en Grèce, forcément, hein ? Bien sûr. Quand on parle de l'Antiquité grecque, c'est pas la Grèce géographique d'aujourd'hui. Ça va jusqu'à l'Anatolie, même au-delà jusqu'en Inde. Hein. Il y a eu des invasions grecques en Inde, dans ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui la Turquie, l'ancien Empire ottoman. À Marseille, il y a eu des Grecs, il y a eu des colonies grecques. En Espagne aussi. Donc la Grèce, ça se développe dans tout le pourtour méditerranéen et au-delà. Ce sont des îles, la Grèce, au départ. Vraiment, des îles entourées de la mer et ils naviguent beaucoup.
Et comment fait-on pour réunir une si belle collection ?
Alors, l'histoire de la collection du Louvre, c'est pour ça que j'ai commencé par vous parler tout à l'heure de l'histoire du bâtiment dans la salle des Cariatides, pour vous dire que nos rois de France ont commencé à collectionner dès la Renaissance, c'est-à-dire dès l'époque où on a redécouvert l'Antiquité, on a commencé à collectionner. Alors, c'est plus facile pour les Italiens que pour nous, parce qu'évidemment, sur leur territoire, il y avait des traces très visibles, à Rome notamment, et puis au-delà. Et le roi François Ier envoyait des agents en Italie pour essayer d'acquérir, pour faire des copies, pour faire des moulages des œuvres originales sur place, parce qu'il y avait une volonté de posséder des œuvres de l'Antiquité, qui passe vraiment pour être un des fondements de la culture occidentale. Les hommes de la Renaissance ont eu le sentiment d'être les héritiers de cette histoire grecque. Et c'est intéressant parce qu'un roi comme François Ier est ultra-catholique, hein, si on peut dire. C'est d'ailleurs un moment où la question ne se pose même pas pour lui d'être autre chose que catholique. Ça n'empêche que les histoires de mythes ne sont pas envisagées comme une religion, mais comme une culture. Hein, c'est l'idée de connaître ces mythes, ces histoires du passé, contribue en fait au plaisir, à la connaissance.
Au retour dans le bus, nous recueillons les impressions de nos accompagnants.
Il n'y a pas eu de bruit, hein, et on était bien avec vous et tout ça.
Les œuvres qui vous ont plus marqué
Moi, les femmes sans bras, là. Ah ouais. Les cariatides, c'est-à-dire.
J'ai aimé votre participation, les questions que vous avez posées et le fait que vous pensiez aux autres aussi, aux dames qui étaient là toujours à parler. Moi, ça, j'ai aimé. C'est sûr que c'était aussi très beau comme exposition. J'ai bien aimé.
Bah, moi, j'ai plus beaucoup de choses à rajouter. Simplement que j'avais trouvé que vous aviez bien préparé votre voyage, votre sortie, elle était bien préparée, c'est bien, vous étiez bien attentif, donc j'ai bien aimé ce que l'on a vu et tout, l'ambiance, très bien.
Alors moi, je voudrais poser vos impressions sur la journée, et quelles sont les œuvres qui vous a plus le plus ?
C'est l'œuvre en elle-même, c'est-à-dire arriver à faire venir ensemble des gens qui sont enfermés, des gens qui sont en liberté, aussi bien du personnel de l'administration pénitentiaire que des bénévoles, et être tous ensemble autour d'un projet qui a été monté par des détenus avec une animatrice. Ensuite, sur le terrain, c'est la chance exceptionnelle qu'on a de se trouver dans un lieu merveilleux avec des œuvres formidables, mais avec très peu de personnes autour. Donc c'est profiter au maximum de la vue des œuvres, hein, parce qu'on en a vu beaucoup, on a pu en faire le tour, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Hein. Et puis ce qui m'a frappé, c'est la qualité de la présentation de la guide, qui a senti très vite que le public était intéressé. Donc dans ces cas-là, chacun donne le maximum, aussi bien nous, parce qu'on écoute ce qui est raconté, que le guide qui raconte ses anecdotes et qui nous fait presque rire, parce que c'est, il y a des choses très, très amusantes.
On a vu que c'était votre travail, c'est ça qui compte.
Ouais, ouais. Sur le privilège d'avoir personne comme ça, avoir une présentatrice à nous tout seul.
Ben, c'est un privilège exceptionnel.
Ouais.
Moi, j'avais jamais vu ça. Ah oui, c'est. Je suis déjà allée au Louvre, hein. J'ai déjà vu des expositions au Louvre. Alors là, c'est jamais j'avais fait ça. Avec personne dans le. C'est tellement grand, c'est tellement vaste. Et on en a vu quoi, une infime partie.
Oui, une partie, on a vu. Ouais.
On aimerait faire ça tous les jours.
Mais... Allez, ah bah moi j'ai ressenti tout de suite. J'étais libre, quoi. J'étais plus en détention, quoi. Tous les jours-là, on était tous égaux, quoi. Pour moi, on était tous égaux. Il n'y avait pas de jaloux, il n'y avait pas de préférence, il n'y avait pas de
méfiance.
Voilà, il n'y a pas de méfiance. On avait une confiance tous ensemble. On avait tous une confiance. Moi, j'ai ressenti ça, et puis j'ai passé une très très belle journée.
Et on est à l'aise.
Et on est, ouais, voilà, on est à l'aise. Et avec le soleil. Moi déjà, moi j'avais jamais vu les œuvres de mes yeux, quoi. C'était la première fois que je venais dans un musée.
Tu fais le montage.
Une fois qu'on est emporté par les mots de la guide, quoi, on se laisserait rouler comme ça toute la journée, quoi. Moi j'étais parti toute la journée.
Oui.
Après j'ai même été rechercher le micro à un collègue. Parce qu'ils ne savaient pas, il faut bien prendre le micro, moi je voulais bien prendre tout dans le tout enregistrement.
C'est pas facile parce que ça demande de votre part beaucoup d'attention. Parce qu'il faut à la fois écouter ce qui est dit par la guide et puis après voir le public, où sont disposés les gens pour ne pas les accrocher.
Voilà,
être bon. Et puis elle bougeait beaucoup.
C'est lourd.
Moi, pas trop parce que j'avais que le petit appareil. Quoi. Mais
avec les perches,
oui. Mes collègues, je les félicite. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Moi, je trouve qu'on a fait un bon boulot pour notre émission. Merci. Hein. Merci.
Non, nous n'avons rien à rajouter. C'était une merveilleuse journée.
À refaire ?
Ah, bien sûr.
Merci.
C'était la belle italienne.
Ou notre visite au Louvre du 4 juin 2013.
Une émission de l'atelier radiophonique du centre pénitentiaire de Maubeuge avec
Benoît,
Bernard,
David,
Eric,
Hamid,
François B,
Georges,
François N
et Mohamed.
Nous remercions Claude Tisser,
Marianne Chapeau,
le service d'insertion et de probation,
la direction du centre pénitentiaire de Maubeuge
et l'association Relais Prison Centre Avenois.
Coordination Francine Augéré.
Ça c'est sûr, on se l'a dit, hein.
Voilà.
On se l'a dit, qu'il faudra le refaire, nous, avec notre famille et les enfants. On se l'a dit.
Comme ça, on pourrait expliquer, ben, là, nous, quand j'étais en prison, j'ai participé à ça, j'étais là, je pourrais leur expliquer un petit peu. Ben,
c'est un privilège.
Pour moi, j'étais plus détenu.
Et une entière liberté, c'est...
Et on s'est senti libre, hein.
Arriver à faire venir ensemble des gens qui sont enfermés, des gens qui sont en liberté, aussi bien du personnel de l'administration pénitentiaire que des bénévoles, et être tous ensemble autour d'un projet qui a été monté par des détenus avec une animatrice.
Pour cette deuxième visite, que j'ai eu la joie de faire, avec des images plein les yeux, j'ai enfin le sentiment de vivre, de respirer.
Une vie, une journée, une visite. Ces belles Grecques se sont mises à vivre pour nous. Nous restons ivres d'images, éblouis et comblés.
Pas n'importe quelle maison, hein. Je me souviens plus, c'est une glace italienne très connue.
Bon, on s'est régalé.
J'ai adoré, surtout qu'elle était sublime, cette glace italienne.
T'es tombé amoureux d'une glace.
Non, il y a...
ça n'empêche que les histoires de mythes ne sont pas envisagées comme une religion, mais comme une culture. Hein, c'est l'idée de connaître ces mythes, ces histoires du passé, contribue en fait au plaisir, à la connaissance. Voilà.
Radio PFM et l'association TransArt vous proposent une série d'émissions réalisées dans le cadre d'un atelier radiophonique au centre pénitentiaire de Maubeuge.
Et là, ici, c'est notre petit point tranquille. C'est que les gens peuvent se relâcher puis raconter des petites histoires.
Les détenus ont produit des émissions sur des thèmes sociaux et culturels, la vie en prison, mais aussi lors de visites encadrées dans des lieux culturels de la région. Ce projet a eu lieu de 2010 à 2014 sous la responsabilité de Francine Augéré, ancienne directrice de Canal FM, radio associative maubeugeoise.
Si vous attendez dans votre cellule, vous regardez la télévision du matin au soir, vous se levez à midi pour le repas, il n'y a rien qui avance.
Cette série d'émissions est à écouter sur PFM 99.9 du 13 janvier au 6 mars, le mercredi à 10h du matin, le jeudi à 14h et le samedi matin à 9h.